محل السيارات هذول المنطقة الوسطى الأطراف طبعا.
ici il y avait le quartier central. Ils ont commencé à détruire à partir où vous voyez les voitures là-bas jusqu'à le centre du quartier. Ici, c'est les extrémités, ils ont détruit après. Ma maison se trouvait vraiment à une vingtaine de mètres du mur de la montation. C'était un quartier vraiment bien, c'était un quartier complet. Même les gens des autres quartiers, quand il leur manquait quelque chose, ils venaient dans notre quartier. C'était un quartier incroyable.
Comment s'appelait votre quartier ?
Hay el Magharbi.
Le quartier du Maghreb.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Abou Madi. Il parle de la destruction d'un quartier, son quartier. En la nuit du 10 au 11 juin 1967. Il avait alors 13 ans. Son père était forgeron. Son grand-père, originaire de Fès, au Maroc, s'était installé à Jérusalem en 1907, un peu par hasard, de retour d'un pèlerinage à la Mecque. Abou Madi est né dans ce quartier des Maghrébins. Et lorsqu'on l'interroge, il se souvient bien sûr de la brutalité de l'expulsion, mais il parle aussi de ses jeux de ballon sur l'esplanade des mosquées. C'est à cette hauteur-là que l'on devrait toujours raconter l'histoire, à hauteur d'enfant, même quand elle rencontre la grande histoire, en l'occurrence ici la guerre des Six Jours de 1967, à l'issue de laquelle l'armée israélienne conquiert l'ensemble de la ville de Jérusalem. Et puisque nous sommes à Jérusalem, cette grande histoire prend la dimension mythique, violente, insensée du choc des monothéismes. Je ne vous ai pas tout dit. Abou Madi, c'est son surnom. Son prénom, c'est Moussa Issa. Entendez ? Moïse, Jésus. Nous y voilà, au cœur de la ville sainte, au plus près des sanctuaires les plus sacrés des religions juives, chrétiennes et musulmanes, l'historien aussi est au pied du mur. Comment peut-il écrire l'histoire d'un quartier sans se laisser sidérer par les conditions catastrophiques de sa destruction ? Comment peut-il faire droit à la longue durée, à la répétition obstinée des jours, pour dire à la fois et du même ton la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre ? Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, c'est le titre du livre de Vincent Lemire que nous recevons aujourd'hui. Il sera rejoint dans la seconde partie de l'émission par nos deux sociétaires du jour, Emmanuel Dixier et Pape Ndiaye. Il faut bien cela, c'est maintenant dans Histoire 2. Bonjour Vincent Lemire.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'urbain, vous dirigez aujourd'hui le centre de recherche français à Jérusalem, ville à laquelle vous avez consacré plusieurs ouvrages, nous allons y revenir, et votre dernier livre vient de paraître aux éditions du Seuil, dans la collection dont je m'occupe, autant le dire d'emblée, mais ça ne m'a pas paru une raison suffisante pour ne pas vous inviter. Nous en parlerons surtout dans la seconde partie de l'émission. Là, je vais vous interroger plutôt sur votre démarche. Et ma première question, c'est comment fait-on pour ne pas devenir fou quand on travaille sur Jérusalem ?
Ça fait à peu près 25 ans que je travaille à Jérusalem. Il est évident que je n'aurais jamais pu faire ce livre il y a 25 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. J'ai commencé il y a 5 ans. Parce que écrire ce livre supposait effectivement du calme, du métier, de la documentation. Beaucoup de gens qui me font confiance à Jérusalem-Ouest, à Jérusalem-Est, dans les archives israéliennes, dans les archives à Jérusalem-Est, en Palestine et un peu partout ailleurs. C'est aussi un livre qui s'est écrit après le projet Open Jérusalem, où j'avais pu travailler sur les archives sur place et autour. Et pour tout vous dire, ce n'était vraiment pas mon projet d'écrire ce livre. Ce livre a pris la forme d'une HDR, comme on dit, habilitation à diriger des recherches. C'est dans notre métier, c'est la deuxième thèse. Et j'avais prévu de travailler plutôt sur les archives de la custode des franciscains. Voilà, et ça faisait plusieurs mois déjà que je travaillais sur les franciscains dans un centre d'archives très calme. Et un soir, j'ai dîné chez Raïfa Khalidi, dont on reparlera peut-être, je crois, un peu après. Et elle m'a raconté cette histoire, et j'ai été saisi par cette histoire en sortant de ce dîner.
Ça, c'est votre point de vue. Au fond, vous voyez ce trou de mémoire, on va y revenir, depuis la terrasse de Haïfa Khalidi, et ensuite, et donc évidemment il y a une charge émotionnelle,
ouais.
Et ensuite ben, vous travaillez à s'y maîtriser finalement.
Voilà, après je passe 6 ans à faire mon métier, et donc à rassembler de la documentation, à découvrir que ce quartier a été géré par la France pendant une 20aine d'années, ce que je ne savais absolument pas et ce que personne ne savait. Ça c'est un peu le scoop du livre, hein. C'est ma découverte et ce qui permet de redocumenter l'histoire de ce quartier. Et effectivement, à rendre compte non seulement de sa mort, mais aussi de sa vie. Hein, c'est ce qui fait le titre du livre, « Vie et mort du quartier maghrébin ». Jusqu'ici, on a parlé de ce quartier maghrébin que pour raconter le moment de sa destruction.
Justement, votre livre va faire parler de lui, sans doute, en Israël, mais pas seulement, puisqu'il établit clairement et contre la thèse officielle que la destruction du quartier maghrébin a été programmée et planifiée par les Israéliens. Vous l'établissez preuve à l'appui à partir de l'ordre du jour, ça pourrait s'appeler l'ordre du jour aussi, votre livre, d'une réunion entre le maire de Jérusalem et le commandant de l'armée en charge de la ville le 9 juin 1967, 36 heures avant l'arrivée des bulldozers. Donc là, on est dans une histoire de la documentation, et c'est par là qu'on pourrait commencer.
Oui, tout le monde savait que cette destruction avait été planifiée, programmée et coordonnée. Tout le monde savait, aucun historien sérieux ne pouvait imaginer que 15 entrepreneurs avaient pris leur bulldozer, 15 entrepreneurs exaltés, un samedi soir après Shabbat, avaient pris leur bulldozer pour détruire un quartier Ayoubide et Mamelouk. Personne ne croyait à cette histoire. Mais le devoir de l'historien, c'est de documenter. Et c'est de démontrer. Et donc, il a fallu effectivement chercher très très profondément. Évidemment, commencer par ne pas trouver dans les archives militaires. On ne trouve pas dans les archives militaires. Et j'ai en fait utilisé la méthode que j'utilise depuis 25 ans à Jérusalem. Je vais dans les bas-fonds des archives, dans les archives municipales, dans les séries les plus techniques, celles dont personne ne se soucie, et qui en fait décrivent le réel souvent de façon très très prosaïque, et très simple, oui. En fait, à telle heure, à 17h30, on se retrouvera sur place, on fera un plan et on détruira le quartier. Et puis il faudra positionner tant de camions pour ramasser les gravats. Et puis il faudra aussi mettre un tuyau d'arrosage parce que ça va faire de la poussière.
D'ailleurs, on peut commencer effectivement par là, toujours commencer par là, qu'il s'agisse de Molière ou de la politique antisémite de Vichy, c'est-à-dire ramener l'histoire à son socle documentaire, non pour l'y rabattre, mais au fond pour ouvrir, je dirais, la potentialité de l'histoire. Et votre livre personnel, vous l'avez déjà dit, Vincent Lemire, est le fils d'une démarche collective, une enquête soutenue par l'ERC, l'Agence Européenne de Financement des Grands Projets de Recherche, Open Jérusalem, qui consiste, je vous cite, à rendre l'histoire de Jérusalem plus ouverte, collective et ambulante. Donc, parce que c'est une ville monde, évidemment, ces archives se trouvent partout dans le monde.
Voilà, Jérusalem n'est pas à Jérusalem, en tout cas pas seulement. C'est ce que le projet Open Jérusalem a démontré, bien au-delà encore de ce qu'on pouvait imaginer. Jérusalem est une ville-monde, ça n'est pas seulement un slogan touristique de carte postale, ça n'est pas une vision idyllique d'ailleurs, hein, de cette ville, parce que le fait que Jérusalem soit une ville-monde peut porter préjudice à ses habitants. Ces maghrébins ont été aussi victimes de jeux géopolitiques qui les ont dépassés. Donc dire que Jérusalem est une ville-monde, hein, c'est pas repeindre l'histoire de la ville en rose, c'est juste la raconter telle qu'elle est, sur la très très longue durée. Et donc effectivement, on trouve à Istanbul des archives sur la gestion du quartier, parce que le sultan calife d'Istanbul doit s'occuper très particulièrement des pèlerins, de tous les pèlerins d'islam, et les pèlerins du Maghreb ont une valeur tout à fait particulière, hein. Ce sont ceux qui viennent de plus loin.
Vous avez effectivement beaucoup travaillé sur les archives ottomanes de la municipalité de Jérusalem, qui est une période délaissée de son historiographie en tout cas, ce qui avait déjà été le cas d'un de vos livres précédents, Jérusalem 1900, un livre qui a été traduit en arabe et en hébreu, preuve qu'au fond, on n'est pas obligé de faire une histoire commune pour faire une histoire partagée. Mais là encore, il y a cette idée que, au fond, en élargissant le socle documentaire de votre histoire, vous pouvez la documenter de manière tellement assurée que, finalement, ça s'impose, non, quand même.
Oui, ça s'impose, ça converge. C'est une démonstration assez simple, hein. Enfin, je crois que quand on lit le livre, il n'y a pas de surinterprétation, il n'y a pas de posture hypercritique, ou voilà, c'est une démonstration diachronique, narrative. Il faut seulement, effectivement, aller chercher parfois des documents qui sont très très dispersés dans une dizaine de langues. Et effectivement, il faut aussi toujours revenir à ces archives municipales, hein, qui sont un peu mon viatique hein, depuis 1999, oui. Parce qu'une municipalité, quelle qu'elle soit, et quels que soient ses projets, etc., elle finit toujours par décrire le réel tel qu'il est, avec des projets qu'on peut juger comme ci ou comme ça.
Et ces archives, d'ailleurs, elles sont dans le livre. Je veux dire, vous avez tenu à ce qu'elles soient visibles, qu'il y ait non seulement des photographies, mais aussi cette documentation qui est donnée à voir,
oui,
dans sa matérialité.
Oui, oui, ça c'est. Il faudrait dire que le livre a été très fortement soutenu par le Centre national du livre, qui fait beaucoup, et donc a permis d'être très très bien illustré, et pas seulement illustré. Effectivement, dans le livre, il y a 70 images, des photographies, parce qu'il était important de rendre visible ce quartier qui a disparu, de revisibiliser ce quartier. Donc il y a des photographies, et puis il y a aussi des documents. Oui. Habituellement, l'historien a seulement besoin de poser des guillemets, de citer et de mettre une note de bas de page sur des sujets aussi sensibles. Parfois, il faut montrer le document, il faut le montrer dans sa matérialité. Et puis, pour les documents qui nous intéressent, il y a des annotations parfois marginales qui sont absolument fondamentales. Celui qui dirige vraiment, celui qui prend la décision, c'est pas celui qui rédige le tapuscrit, c'est celui qui met les trois notes manuscrites en marge, et c'est ça qui va faire la décision.
Et ces archives sont complétées par une enquête orale. C'est une des manières aussi pour vous de conduire cette histoire à parts égales, pour reprendre l'expression de Romain Bertrand, c'est-à-dire de mener un récit qui est un récit d'espace, qui est aussi un récit d'image, d'où l'importance de la photographie qui vous intéresse depuis longtemps, Vincent Lemire, comme historien. Elle peut provenir d'ailleurs elle-même de l'enquête orale, puisque lorsque vous interrogez Abou Madi, qu'on a entendu tout à l'heure, c'était je crois en 2017, il vous fait voir une photographie de lui, bébé, dans les bras de son père, dans la cour de sa maison, une photo, alors vous la retournez, il y a marqué 1957, et souvent, c'est ce geste même du renversement, du retournement, c'est ça l'histoire.
Les photos que montrent les témoins ont évidemment racontent autre chose que leur image. Et puis ces témoins, il faut le dire aussi, j'ai voulu rencontrer tous les témoins, y compris les témoins israéliens et les acteurs israéliens de cette histoire. Encore une fois, y compris Sasson Levy, hein, qui est le dernier survivant du groupe de ceux qui a détruit le quartier et qui raconte cette destruction comme l'entrepreneur qu'il était. Hein. Il y avait des problèmes techniques, il fallait pas que les murs tombent sur les bulldozers, il fallait pas que ses ouvriers soient blessés, il fallait qu'on ait assez d'essence et assez de lumière pour continuer. Enfin voilà, il a un permis de démolir. Et il démolit. Et puis Meron Benvenisti, l'adjoint au maire de Teddy Kollek aussi, qui a été chargé d'indemniser les anciens habitants du quartier, parce que il faut dire, et ça c'est une des découvertes du livre, que contrairement à ce qu'on a longtemps pu croire, les anciens habitants du quartier ont été indemnisés. Alors indemnisation minime, hein, plutôt compensation, mais c'est ce qui a permis aussi d'obtenir leur silence. Et évidemment, ces dossiers d'indemnisation, ils sont tout à fait passionnants pour l'historien, parce qu'ils décrivent le réel social du quartier juste avant cette destruction.
Oui, c'est ça le travail de l'historien, effectivement, de compléter, d'inquiéter aussi notre récit par une documentation élargie. Mais vous l'avez dit, Vincent Lemire, et je voudrais terminer par là cette première partie de l'émission. Au fond, ce livre, il a quand même un point de vue, au fond un récit inaugural, c'est celui de Haïfa Khalidi, qui a vu la destruction lorsqu'elle avait 19 ans, et c'était pas prévu, mais vous voulez l'entendre, là, maintenant ?
Oui, je voudrais bien la réentendre.
On l'entend maintenant.
I remember the Israelis when they demolished the whole area, the Moroccan quarter.
Je me souviens avoir vu les Israéliens détruire l'intégralité du quartier des Marocains.
On the 10th of June 1967.
C'était le 10 juin 1967.
From the windows of my house.
J'ai vu cette destruction par les fenêtres de ma maison.
Here in Jerusalem, of course.
Ici, à Jérusalem.
Now we are on the roof of my house.
On est sur la terrasse de ma maison.
And overlooking the plaza.
On surplombe l'esplanade qui était auparavant le quartier des Marocains.
As you can see, it's a very huge area.
Comme vous pouvez le voir, la place est immense. J'ai vécu toute ma vie ici, dans cette maison.
And I'm going to die, hopefully, in this house.
Et j'espère y mourir.
As a Palestinian,
je suis une Palestinienne.
As a Jerusalemite,
je suis de Jérusalem.
And at last, as a Khalidi.
Et au fond, je suis une Khalidi.
Ça, c'est votre récit inaugural, Vincent Lemire. Mais je le répète, et je crois que nos auditeurs l'ont compris, tout l'effort, tout le travail, toute la méthode, c'est de ne pas se laisser entièrement capturer par sa charge émotionnelle.
Oui, et en tout cas, de prendre toutes les charges émotionnelles en charge, justement, en responsabilité. Je voudrais dire, il faut dire, hein, que d'un point de vue israélien, le fait que les juifs israéliens aient été privés d'accès au mur occidental par la Jordanie entre 1949 et 1967, pendant 18 ans, au mépris des accords de Rhodes qui avaient été signés, a déclenché vraiment des frustrations, des rancœurs extrêmement fortes. Hein. Dans la presse israélienne, au début des années 60, on raconte qu'ils vont prier sur le mont Sion, où ils regardent le mur, ils voient le mur. Donc, il y a tout ça autour de cette destruction. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de honte aussi, de la part de tout le monde. Et le rôle de l'historien, c'est de prendre en charge tout cela et d'en faire une histoire.
Et de le prendre en charge par le récit. Emmanuel Tixier du Ménil, on va vous écouter tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui vous a touché, au fond, dans ce livre.
Ah oui, c'est un livre magnifique. Je l'ai lu, je l'ai même dévoré. Il se lit presque comme un roman policier. Et Vincent Lemire, vous dévoilez une énigme, vous dévoilez une histoire que presque personne ne connaît, alors que ça se passe dans un des endroits les plus scrutés de la planète, hein, c'est ce paradoxe, à Jérusalem, au pied du mur des Lamentations.
On en parle tout à l'heure.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
On pourrait le dire simplement, nous tentons avec Vincent Lemire, Emmanuel Tixier et Pape Ndiaye de faire l'histoire d'un trou de mémoire. Si le quartier des Maghrébins au pied du mur occidental de l'esplanade des mosquées ou du mont du Temple troue la mémoire de Jérusalem, c'est d'abord concrètement parce qu'il y laisse un vide, une béance, et une béance centrale, vous l'avez dit Emmanuel. C'est là le paradoxe, il y a au cœur de cette ville, si intensément scrutée et visitée, sinon un oubli, du moins une mémoire expulsée des récits officiels et de ce non-dit. Vincent Lemire tente de faire un lieu-dit, par la narration, et une narration en longue durée. Et vous, ça parle de Saladin, donc vous êtes contente.
Ah bah, tout à fait. Alors effectivement, quand on est en face du trou ou au pied du mur, pour reprendre le titre de Vincent Lemire, il faut prendre certainement du champ, et là du champ chronologique, et restituer cette histoire sur la longue durée. Une histoire qui permet de documenter la mort, certes, du quartier des Maghrébins, mais aussi sa très longue vie, qui est une histoire islamique, puisque ce quartier des Maghrébins est fondé à la fin du XIIe siècle par Saladin, champion de la contre-croisade islamique, qui vient de reprendre la ville aux croisés. Il se lance dans la réurbanisation de la ville et il crée une fondation pieuse, ce qu'on appelle en arabe un waqf, qu'il place sous la protection d'un savant soufi, originaire d'Al-Andalus, de l'Espagne musulmane, Abou Médiène, qu'on appelle au Maghreb du nom de Sidi Bou Médiène, qui est encore le saint patron de la ville de Tlemcen. Et c'est une fondation pieuse qui montre, enfin qui est le début d'une très longue histoire de l'Empire islamique, où des pèlerins maghrébins, d'où le nom de ce quartier, viennent à Jérusalem.
Et d'une certaine manière, Vincent Lemire, c'est de ça dont il s'agit, au fond. C'est ce que vous appelez, ça vous a intéressé aussi, Emmanuel, des orphelins de l'Empire. C'est-à-dire à la fois des orphelins de l'Empire colonial français, mais aussi de l'Empire islamique.
Oui, oui, ces maghrébins de Jérusalem nous racontent aussi, pas seulement l'histoire de Jérusalem, mais l'histoire de la Méditerranée, de cette Méditerranée d'avant les nations, d'avant les frontières, où on circulait, où on s'installait, où on repartait, où on commerçait. Et où les identités multiples étaient beaucoup plus fluides, beaucoup plus poreuses. Nous ne sommes là, on n'est pas en train de déconstruire quoi que ce soit. On est juste en train de décrire le réel tel qu'il était. Et de rappeler que les identités nationales sont une petite virgule à l'échelle de l'histoire et de la très longue durée de la Méditerranée.
Emmanuel Dixier.
Alors, une histoire sur la très longue durée, qui est une histoire d'un monde islamique qui, depuis les conquêtes des 7e et 8e siècles, va de l'Indus aux Pyrénées, qui a un Orient, certes, mais aussi un Occident. Et en arabe, Occident se dit Maghreb. Ce quartier des Maghrébins, c'est un quartier qui est fait pour que les pèlerins viennent à Jérusalem. Et on voit aussi la façon dont le voyage en quête de science et de foi est mené tout à l'échelle de tout l'Empire pendant le Moyen-Âge. Et combien cette fondation pieuse, pendant des siècles et des siècles, a eu le même rôle, qui était de donner à manger les jours des grandes fêtes musulmanes, de payer un habit pour les plus pauvres, de payer également les frais d'inhumation pour les pèlerins morts à Jérusalem. Et on comprend la profondeur, justement, de cette histoire islamique.
Oui, et ça, c'est une histoire en longue durée que, d'ailleurs, vous traitez, vous racontez, Vincent Lemire, de manière chronologique, alors que tout, au fond, dans cette histoire, nous fait pencher pour l'histoire régressive, l'histoire archéologique, et on va y revenir, mais vous avez voulu raconter l'histoire de ce quartier maghrébin avec ses temps forts et ses temps faibles depuis le XIIe siècle.
Oui, je crois. J'aime de plus en plus la chronologie.
C'est une idée bizarre.
Voilà. Elle est rassurante d'une certaine manière. Elle n'est pas toujours très simple, parce que le réel n'est pas chronologique.
Oui.
Donc, mais ça permet quand même de s'y retrouver. Ça permet de faire en sorte que le lecteur s'y retrouve. Et puis ça n'empêche pas de dire qu'effectivement il y a des affleurements, il y a des choses qui ressurgissent, il y a des choses qui s'enfouissent, etc. Au tout début de ma formation d'historien, j'ai été un tout petit peu médiéviste, un petit moment.
J'avais travaillé sur Venise.
Voilà, sur Venise au 15e, 16e siècle. Donc il y a quelque chose qui me revient. Je travaillais à l'époque sur le ghetto de Venise. Et cette longue durée, c'est aussi effectivement pour rendre justice à l'histoire de ce quartier qui disparaît aussi très très brutalement alors qu'il a persisté encore une fois pendant 8 siècles. Il y a des fondations pieuses islamiques qui disparaissent, qui s'évaporent, qui se désagrègent comme n'importe quelle fondation sous nos latitudes. L'objectif peut s'éteindre, les sources de financement peuvent péricliter. Là, en l'occurrence, les sources de financement, c'est le village de Ein Karem, qui est un des plus beaux terroirs autour de Jérusalem. Tous les visiteurs de Ein Karem aujourd'hui le savent. Ce sont des belles terres, ce sont des belles sources. Et tout le village de Ein Karem était là pour financer les pèlerins du Maghreb. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en 1948, quand Ein Karem va se retrouver en Israël, à l'ouest de la ligne verte, la France va devoir intervenir en soutien de ces Maghrébins, parce qu'en fait, ils ont perdu en fait la presque totalité de leurs revenus fonciers avec la perte de Nkrem.
Mais justement, ce qui est intéressant à vous entendre, Vincent Lemire, c'est que, au fond, cette chronologie que vous restituez, elle est contre-intuitive par rapport à la réalité du terrain archéologique. Et ça, Papa Ndiaye, ça vous a intéressé. On peut partir, justement, parler de photographie de Gilles Caron, qui est le premier à entrer dans la vieille ville de Jérusalem le 7 juin. En fait, c'est pas un reporter de guerre, hein. Il travaille pour Gamma, et il suit Sylvie Vartan, mais il pressent que quelque chose se prépare. Alors, il prend quelques photographies fameuse, celle de Moshe Dayan notamment. Et puis, il part en reportage au Sinaï. Et quand il revient, il n'y a plus de quartier. Et ça le sidère. Et il fait des photos qu'il va qualifier d'inutiles, c'est-à-dire des photos des décombres. Et au fond, il ramène des images, je vous cite, de ce qu'il n'a pas vu et dont il ne pourra jamais témoigner. Et ça, Papa Ndiaye, c'est ce qui vous a frappé, cette puissance de sidération.
Cette puissance de sidération de Gilles Caron qui arpente le quartier détruit et nous le suivons avec Vincent Lemire. Et au fond, il prend des photos, il essaye de comprendre l'incompréhensible. Et on comprend à ce moment-là, me semble-t-il, que le livre, il est aussi écrit pour Gilles Caron. Il est mort 3 ans plus tard, donc c'est évidemment impossible, mais c'est une manière d'expliquer à Gilles Caron ce qui s'est passé. La destruction, pourquoi la destruction du quartier, et puis aussi pourquoi l'effacement des mémoires ensuite, le silence qui tombe sur cette histoire-là. Et donc, le livre, au fond, c'est faire revivre un quartier disparu dans un grand récit très ample chronologiquement, qui notamment parle de façon extrêmement claire, pédagogique, du déclin du quartier après le départ des Ottomans en 1917, puisque c'est le moment où le mandat britannique commence et où les rivalités impériales entre les Britanniques et les Français commencent aussi, avec aussi les achats immobiliers des militants sionistes à partir des années 20. Et donc, tout se déploie pour, au fond, arriver à ce qu'on comprenne, ce qu'on admette en quelque sorte, la destruction du quartier. Et pourtant, je me disais en vous lisant, Vincent Lemire, que vous semblez vous-même sidéré par cet événement-là. Et je m'interrogeais sur la possibilité de l'historien qui est à la fois celle d'expliquer, de rendre compte par le récit avec ses multiples points de vue, mais de garder en creux, en quelque sorte, une forme d'émotion contenue et une forme de sidération face à un événement qui, sans être absolument incompréhensible, demeure difficile à penser et à regarder en face.
Vincent Lemire.
Oui, vous avez raison. La tension qu'il y a dans les pages au moment où je suis Gilles Caron, donc le mercredi 7 juin, j'ai l'impression effectivement d'être derrière lui. Cette tension, elle est absolument pas feinte. J'ai découvert les photos inédites de Gilles Caron au moment où j'allais écrire ces pages et où je ne savais pas comment les écrire. J'hésitais, je n'arrivais plus à écrire. J'étais en fait au bord de la disparition du quartier et je n'arrivais plus à écrire. Et puis Mariana Otero, il faut citer son nom, m'a demandé de l'aider à redocumenter les archives photographiques de Gilles Caron et en particulier les milliers de photos, les dizaines de milliers de photos non publiées. Et elle m'a convoqué un jour dans un studio et elle m'a montré toutes ces photos et j'ai été saisi une deuxième fois. Et vous avez raison ce que vous avez dit sur le fait que je m'adresse à Gilles Caron dans ces pages-là, et à mon avis tout à fait juste. J'ai rencontré sa fille Marjolaine, on a fait beaucoup de présentations du film, etc. Il y a aussi, voilà, il y a d'autres morts effectivement qui traversent ce livre.
Le quartier est rasé, il est terrassé en somme, mais c'est le sol qui est jonché de débris, que photographie d'ailleurs Gilles Caron, devient à son tour des archives du sol. Et c'est tout l'enjeu de l'archéologie d'ailleurs, Emmanuel Tixier, c'est tout à fait frappant, parce qu'on voit bien que pour les archéologues israéliens, il y a encore des fouilles de 2005 à 2009 à Beit Aliba, c'est-à-dire sur la bordure ouest de l'ancien quartier des Maghrébins, ils veulent
tout de suite, évidemment, aller au plus profond, aller taper sur la roche-mère, c'est à 8 mètres, hein, en dessous de l'esplanade aujourd'hui, pour justement exposer la grande histoire biblique. Mais à leur corps défendant, ils traversent l'histoire islamique, et notamment il y a à ce moment-là la mise à jour de cette madrasa al-Fadiya du XIIIe siècle, qui témoigne de cette réurbanisation du quartier. Et l'historien médiéviste israélien Benjamin Kedar dénonce vigoureusement cette destruction, au fond, d'une mémoire qu'on traverse trop vite.
Oui, Benjamin Kedar dit même qu'il s'agit là d'un crime archéologique. Et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que le quartier des Maghrébins est détruit pour qu'on puisse avoir l'esplanade devant laquelle... les gens sur laquelle les gens vont prier, et pour dégager d'une certaine façon le mur occidental ou le mur des lamentations. Mais donc on cherche de ce fait à effacer aussi une histoire islamique, 1300 ans, 1400 ans pratiquement, d'une histoire islamique de Jérusalem.
Et sur France Inter, d'ailleurs, en 1967, c'est comme ça qu'on présentait l'événement comme l'accomplissement des prophéties.
Israël fête aujourd'hui la Pentecôte juive qui commémore le jour où Moïse reçut les tables de la loi sur le mont Sinaï. Pour la première fois cette année, le drapeau israélien a été hissé sur le mont Sinaï. Hier soir, un millier d'Israéliens ont prié pour la première fois devant le mur des Lamentations dans la partie de Jérusalem qui appartenait à la Jordanie avant la guerre. De Jérusalem, nos envoyés spéciaux, Jacques Gara, André Semam.
Il était 3 heures ce matin quand les premiers Israéliens se rassemblaient à Jérusalem au pied du mont Sion. À 5 heures, les premiers entraient dans la vieille ville, dans la ville sainte, la ville qui leur était interdite depuis 19 siècles. La prophétie allait se réaliser, elle se réalisait, on vivait l'histoire sur une terre d'histoire. Les premiers à entrer étaient les Hassidim, ces juifs de stricte obédience qui ne connaissent que l'obéissance sans concession à la loi remise au peuple juif sur le mont Sinaï par Moïse. La fête de la Pentecôte aujourd'hui célèbre justement la remise de cette loi de la Torah au peuple élu. On est venu de Tel Aviv, de Haïfa, de Beersheba, des kibbutz et des villes. Il est 14h ici et déjà 150 000 ou 200 000 personnes peut-être sont passées. Ce soir, il y en aura le double. Devant le mur, on prie.
Devant le mur, on prie. Évidemment, c'est l'accomplissement des prophéties. C'est une histoire qui renoue avec la très longue histoire du temple depuis sa destruction par Titus en 70, qui fonde d'une certaine manière l'idée même que cette ville est sainte par ce traumatisme. Mais au fond, ce que on comprend aussi à vous lire, Vincent Lemire, c'est que la position israélienne ne se réduit pas à cette vision théologique de l'histoire. C'est qu'il y a quand même une pluralité de pratiques et de récits.
Oui, aujourd'hui, devant le mur, on prie et on fouille. Et il faut... Je voudrais rendre hommage à mes collègues archéologues israéliens qui travaillent effectivement dans des conditions extrêmement complexes à Jérusalem-Est, avec des financements. Enfin, tout ça est très très compliqué. Mais j'ai eu accès à la documentation, enfin aux objets qu'ils ont trouvés dans la première couche qu'ils ont traversée. Alors évidemment, c'est pas ce qui a été mis en valeur ensuite pour les touristes, mais il y a une éthique aussi de l'archéologue. L'archéologue traverse des couches et les objets ont été conservé, j'en rends compte dans l'épilogue du livre. Et donc, il y a vraiment dans ce livre un effort pour se tenir entre la compréhension et le jugement, être au plus près de la compréhension, au plus loin du jugement, même si évidemment on ne peut pas être complètement à distance du jugement, et donc d'écouter toutes les voix, tous les métiers, tous ceux en fait qui ont travaillé et qui travaillent encore d'une certaine manière à l'histoire de ce quartier, parce que les archéologues israéliens continuent de fouiller les décombres du quartier sous l'esplanade, sous le parvis actuel.
Dernière question, Vincent Lemire, on voit bien et qu'on comprend bien à vous lire qu'il y a des enjeux de connaissance et de reconnaissance à faire de ce non-dit un lieu-dit, comme vous le dites. Mais d'une certaine manière, cette mémoire, elle était presque entièrement effacée. Pardon, Pape Ndiaye, vous êtes à distance, vous êtes en reportite, donc je gagne du temps en posant la question que vous vouliez poser à Vincent. Pourquoi ce souvenir, finalement? Est-ce que, d'où vient cette injonction quand l'histoire du quartier maghrébin était de toutes parts, parce qu'elle est gênante pour tout le monde, dites-vous, pour les Israéliens, mais aussi pour les Jordaniens, mais aussi pour les Français, on n'a pas eu le temps d'en parler.
Mais aussi pour les Algériens, pour les Marocains. Cette histoire est désagréable pour tout le monde. Effectivement, les Israéliens, bien sûr, les Jordaniens, et les États du Maghreb et la France. Pourquoi se souvenir aussi? Parce que cette histoire a quelque chose à nous dire de Jérusalem. Cette histoire nous rappelle que Jérusalem ne saurait se réduire à l'histoire du conflit, ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. C'est une histoire infiniment plus complexe, plus riche, plus longue, et qui, à un moment, est venue effectivement percuter ce conflit entre deux projets nationaux. On est en 2022, on est dans ce moment-là de l'histoire de Jérusalem. Mais les Maghrébins de Jérusalem, le quartier maghrébin, a quelque chose d'autre à nous raconter. Et donc, il faut effectivement faire cette histoire avec eux, faire en sorte que cette mémoire maghrébine de Jérusalem devienne une histoire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce quartier.
Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, et il y a des dates, 1187-1967, tout est là. Peut-être. Merci Vincent Lemire, merci Emmanuel Tissier.
Merci à vous.
Merci Papa Ndiaye. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Michel Bézikian. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons de l'histoire de l'égalité et des inégalités avec Thomas Piketty. Bon dimanche sur France Inter.